En réalité, ce qui se passe, c'est que la majorité des placés internes, on se retrouve en gros voué à une totale précarisation de leur vie. Hein. Parce que bon, la question qui se posait, c'est combien de ces familles qui étaient dans ces camps ont pu réellement avoir accès à leur village originel, alors que dans le même temps, le processus de militarisation au nord n'avance que de manière croissante.
Avant de parler de cette militarisation du nord du pays, à majorité tamoule, on le sait, est-ce qu'il existe une traçabilité des personnes qui étaient dans les camps? Est-ce qu'on sait, on a un moyen de savoir où elles sont allées?
Il y a un an, le gouvernement de Sri Lanka a décidé de fermer son ministère de réinstallation des déplacés. Mais la réalité, c'est que la majorité, pour avoir visité de nombreux villages dans les districts de Manar, de Jaffna, encore en mars dernier, je peux vous dire que la majorité des familles qui sont invitées à quitter les camps d'Assistana, sont juste invités à retrouver des conditions similaires dans leur bastion d'origine. À savoir que la majorité des villages de réinstallation sont ni plus ni moins que des villages en tôle, à la façon du Tchernobyl 2004, pris en charge par la coopération américaine et par le Bureau des Nations Unies qui est voué à la prise en charge des réfugiés.
Est-ce que vous pouvez nous parler de ces camps? Ils sont où? Comment ça se passe? Est-ce que là, ils ont des choses qu'ils n'avaient pas avant ou inversement?
La situation des villages de réinstallation, enfin, on ne peut pas appeler ça camp, je pense que ça portera à confusion. On parle de villages de réinstallés. En gros, la plan que ça prend, il faut imaginer des camps de réfugiés. En fait, le gouvernement, la rhétorique du gouvernement en 2009 était de parler de camps de transit, hein, de déplacés internes vers leur lieu de vie originel. La forme de ces villages, c'est donc des enfilades de baraquements, de tôles et de bois qui prennent la pluie à chaque mousson. La mousson est arrivée à Sri Lanka. Donc on peut imaginer qu'une bonne partie des populations qui vivent dans ces baraquements, et on est difficile aujourd'hui de compter, mais disons que certaines organisations de la société civile à Sri Lanka, dont la People's Commission for Human Rights, qui est une organisation parapluie qui vise à suivre l'état des lieux, notamment en termes de rassemblement des passés internes, note qu'il y aurait plus de 20 000 familles qui seraient aujourd'hui dans des conditions de survie dans ces baraquements, donc juste pas accès à l'eau courante, pas de moyens de transport, pas de possibilité de relancer une activité économique quelconque, donc à la merci absolue de l'aide qui est censée aussi faire du rempart de chagrin, étant donné qu'en écho aux affichages du gouvernement, les Nations Unies aussi et leurs agences sont en train progressivement aussi de réduire leur appui financier, quoi, leur espèce de perfusion humanitaire. Donc on peut largement s'inquiéter.
Donc en fait, ils ne retournent pas dans leur village d'origine qui aurait été déminé par le gouvernement. Et au contraire, vous évoquiez tout à l'heure le fait qu'il y a une militarisation au nord du Sri Lanka.
En fait, la majorité des villageois se retrouvent vraiment dans une situation extrêmement difficile. Le gouvernement de Sri Lanka, qui encore une fois affiche des efforts importants en termes de démilitarisation au nord, a accepté il y a quelques mois de ça un investissement de la Chine à hauteur de 100 millions de dollars dans la construction de camps militaires au nord. Donc ça, enfin voilà, ce genre de processus de poursuite de cette militarisation au nord de l'île n'implique absolument pas des conditions favorables pour l'installation des placés, parce que naturellement, qui dit redéploiement d'une militarisation ferme, accaparement de terres communales, villageoises, etc., pour mettre en place ces camps militaires, quoi. Et là-dessus se greffe toute la question aussi du développement des zones économiques spéciales sur les littoraux, qui inviteraient les investisseurs étrangers à déployer leurs capitaux pour développer des méga-projets de développement, qui induit à nouveau encore un processus d'accaparement des terres par le gouvernement ou par les investisseurs privés étrangers, et qui forcément facilite encore une fois la réinstallation des déplacés. Et donc la volonté politique numéro un aujourd'hui du gouvernement de Sri Lanka, c'est de donner d'une l'impression à la communauté internationale que tout va mieux, la question des déplacés internes est terminée, la question des assassinats sommaires et des disparitions, c'est une affaire réglée. Voilà, il y a une espèce de double jeu, de double discours, mais ce qui se passe réellement à Sri Lanka aujourd'hui, c'est que la fin de la guerre a coûté une fortune absolue au gouvernement. Ils se sont aussi beaucoup surendettés, déployer leur lien de dépendance aussi à la Chine. Et aujourd'hui, ils sont face à une mobilisation qui dépasse les simples minorités en tamoul.
En fait, le gouvernement a un problème de budget. Il cherche des fonds en profitant du Nord, des ressources du Nord, et au détriment des déplacés internes tamouls.
En fait, la grande problématique de la réinstallation des déplacés internes, c'est que, en fait, au lendemain de la guerre, quand ces camps qui ont hébergé ces 300 000 déplacés d'origine tamoule, principalement, le gouvernement et ses collectivités de bailleurs ne sont pas engagés dans un effort de réflexion pour planifier un plan de réinstallation visant notamment la mise en place de certains amendements, à savoir la dévolution des pouvoirs aux assemblées provinciales, pour qu'elles soient en mesure de pouvoir planifier l'effort de reconstruction. Et ça, c'est un élément qui n'a absolument pas été pris en compte à l'époque. Et aujourd'hui, c'est une des clés sur lesquelles le gouvernement devrait travailler.